Jean-François Zigel. La preuve par Z. Une émission de France Inter faite à la main et pour les oreilles. Bonjour et ravi de vous retrouver après cet été, disons, particulier, particulièrement chaud en tout cas, et qui a été, comme chaque année chez moi, l'occasion d'enfin écouter les dizaines et les dizaines d'albums que j'ai reçus tout au long de la saison et qui s'étaient accumoncelés en piles désordonnées derrière mon bureau. Et oui, on dit que le disque c'est mort, c'est terminé, plus personne n'en achète, plus personne n'en écoute. Et bien pourtant, moi j'ai l'impression que je n'ai jamais autant reçu de nouveaux albums que cette année. Alors je vous propose une petite sélection, une véritable petite promenade, une promenade auriculaire, pourrait-on dire, une promenade auriculaire qui va nous mener à travers les siècles et dans tous les coins de la planète. Mais trêve de bavardage et passons maintenant à la musique avec un extrait du Fil d'Ariane, un album signé Le Concert Idéal et Marianne Piketty. Et nous allons écouter un peu de Pietro Locatelli. Je ne sais pas si vous connaissez Locatelli. On pourrait dire de sa musique qu'elle est mi-Corelli, mi-Vivaldi, si on veut un jeu des références. C'était un compositeur, mais aussi un violoniste virtuose et même une véritable rockstar avant l'heure. Un musicien itinérant qui quitte d'abord Rome pour Venise, puis en Allemagne, Berlin, Kassel, avant de s'établir enfin à Amsterdam où il meurt en 1764. Alors donc un violoniste virtuose admiré dans toute l'Europe, paraît-il une véritable bête de scène. On rapporte qu'avant de commencer à jouer, il fixait d'un regard intensément théâtral son auditoire et toujours habillé dans de somptueuses tenues brillantes. Une agilité extraordinaire, une virtuosité hors du commun. Et nous allons peut-être un peu profiter, un peu jouir de cette énergie grâce à une introduction théâtrale, opus 4, dont vous admirerez l'articulation fine, la rythmique syncopée, le jeu percussif des cordes, tout en piqué et rebond. C'était Marianne Piketty qui dirigeait du violon l'ensemble Le Concert Idéal pour cette introduction théâtrale de Pietro Locatelli qui figure donc dans l'album Le Fil d'Ariane. Et nous passons maintenant à un compositeur français, un compositeur peut-être moins connu, Antoine Bouesset. Enfin, quand je dis moins connu, il a tout de même dominé la vie musicale à la cour de France durant toute la première moitié du XVIIe siècle, nommé à 26 ans maître des enfants de la musique de la chambre du roi, puis 4 ans plus tard maître de la musique de la reine avant de devenir surintendant de la musique du roi et enfin maître de la musique de la chambre du roi, un sacré cumulard. Alors nous allons écouter l'un de ces charmants airs de cour, bien loin profane de ces lieux, tiré inspiré du Concert des Nymphes des Bois, un ballet qui fut dansé en 1627 par la reine Anne d'Autriche en personne. Vous savez, la belle Anne d'Autriche, épouse de Louis XIII et mère tardive de Louis XIV. Vous suivez ? Bon, allez, revenons à nos quatre nymphes des bois qui nous rappellent que leur beauté et le charme de leur voix n'épargnent pas les plus grands rois et font mourir les dieux.
N'épargne pas les plus grands rois, tout fléchit sous leur beauté, tout ressent leur muonté, tout fléchit sous leur beauté, tout ressent leur muonté, des traits qui portent de l'arma et le font péter.
Merci à l'ensemble Correspondance et à Sébastien Dosset pour cet extrait du ballet Le Concert des Nymphes des Bois d'Antoine Bouesset, un extrait de leur dernier album Les Plaisirs du Louvre. Alors je ne sais pas si, comme moi, vous êtes intéressé à l'accompagnement, à ce joli accompagnement qui, comment dire, soutenait ce délicieux quatuor vocal féminin. Eh bien, il s'agissait d'un petit duo entre un clavecin et un instrument que je n'arrivais pas à déterminer. Alors bon, bah, j'ai téléphoné à Sébastien Dosset, il vient de me répondre, il s'agissait d'un tiorbino. C'est un petit théorbe ou un petit luth un petit peu plus aigu, un très joli mélange avec le clavecin, donc pour accompagner nos quatre nymphes vocales. Et je passe maintenant à une véritable histoire de famille, puisque je m'apprête à vous causer des Mozart père et fils. Alors je commence par le fils, le petit Wolfgang, qui aurait déclaré juste après « Le bon Dieu vient papa ». Bon, il a bien raison, il y a même des gens qui pensent que papa vient avant le bon Dieu. Enfin, c'est une autre histoire. On sait en tout cas que notre petit prodige a grandi sous l'œil exigeant et pédagogue de son père Léopold, qui a présenté son fils à toutes les cours d'Europe. C'est d'ailleurs au cours d'un voyage à Londres que le petit Wolfgang, âgé de 8 ans, compose sa première symphonie, et apparemment, il la compose seul, puisqu'à en croire sa sœur Nannerl, Léopold était à ce moment-là alité. Comme il était souffrant, les enfants n'avaient pas le droit de jouer du piano, et Wolfgang, qui ne sait pas quoi faire de ses journées, se lance alors dans l'écriture de sa première œuvre symphonique, mettant ses pas dans ceux des fils de Bach, Jean Chrétien et Carl-Philippe Emmanuel, alors beaucoup plus connus que leur père Jean-Sébastien. Une musique joyeuse et entraînante, sans l'ombre d'une arrière-pensée, convoquant hautbois, corps et cordes, avec la surprise, vous serez attentive, juste avant la fin, d'un petit solo de cor façon trompe de chasse. C'était le Freiburger Baroque Orchester sous la direction de Gottfried von der Goltz dans la toute première symphonie du petit Wolfgang Amadeus, un album consacré aux œuvres d'extrême jeunesse de Mozart. Occupons-nous maintenant du papa Mozart, prénommé Léopold, qui quelques années après la naissance de son fils déclare « Il me faut annoncer au monde un miracle que Dieu a fait naître à Salzbourg. Je dois au Dieu Tout-Puissant d'agir ainsi sous peine d'être la plus ingrate des créatures. » Alors vous allez me dire, un père qui annonce à qui veut l'entendre que son fils est un véritable génie, c'est assez courant, c'est assez commun même. Mais enfin, là, il trouve qu'il avait raison. Et alors qu'il était un pédagogue réputé dans l'Europe entière, Léopold choisit d'assumer à lui seul, presque à plein temps, l'éducation de son fils Wolfgang. C'est donc malheureusement dans l'ombre de son fils qu'il passera à la postérité, et certaines de ses œuvres sont parfois attribuées à Wolfgang, comme cette Missa Solemnis qui a longtemps porté le numéro 115 du catalogue officiel des œuvres de Wolfgang. Nous en écoutons le rare Et Incarnatus Est, une prière dont la ferveur, le mode mineur, la pulsation lente et obstinée, les frottements harmoniques savoureux semblent exprimer tout l'étonnement des hommes face au mystère de l'incarnation. Dans la famille Mozart, je demande le père, c'était l'émouvant Et Incarnatus Est de la Missa Solemnis de Léopold Mozart, et le vocal Project et la philharmonie de chambre bavaroise étaient placés sous la direction d'Alessandro De Marchi, un album paru en 2019 chez Aparté à l'occasion du tricentenaire de la naissance de Léopold Mozart. Et nous passons maintenant côté romantique avec un extrait des Scènes de la forêt de Robert Schumann, un de ses plus merveilleux recueils qu'il signe en 1849. Alors la forêt, c'est la nature, tout cela, c'est central dans l'univers romantique. La nature n'est pas qu'un décor pour un romantique, elle est une véritable porte vers l'arrière-monde. L'homme la regarde et l'interroge pour en obtenir en quelque sorte la clé de son destin. Et alors dans la forêt, on trouve de tout, et même des oiseaux prophètes, des mélodies mystérieuses de cet animal dont on ne sait pas s'il a existé ou s'il n'est que dans la tête du compositeur. Une musique énigmatique mangée de silence et dont le tendre choral central ne semble pas apporter de réponse aux questions de l'oiseau.
Thank you.
délicatesse et rigueur mêlées, nous écoutions émerveillés la grande pianiste française Claire Désert tenter de résoudre le mystère de l'oiseau prophète, l'une des scènes de la forêt de Robert Schumann, un extrait de l'album qu'elle a récemment consacré au grand compositeur allemand. Et nous gagnons encore un siècle pour atterrir en 1953, l'année au cours de laquelle Shostakovich écrit sa 10e symphonie, sans doute sa symphonie la plus connue ou l'une de ses plus connues. Une symphonie qui convoque en plus d'un nombre fourni de cordes, 11 cuivres, 12 bois ainsi qu'une véritable armada de percussions, timbales, grosses caisses, caisses claires, triangles, cymbales, tam-tam et xylophones. Un mouvement qui piétine tout sur son passage et qui a toujours évoqué pour moi les terribles Panzerdivisions de l'armée allemande déferlant en 1941 sur le territoire russe. l'immense et regretté chef d'orchestre letton Maris Jansons, disparu en novembre 2019, dirigeait le deuxième mouvement de la symphonie numéro 10 de Chostakovitch et il était placé à la direction de l'excellent orchestre de la radio bavaroise. J'en viens maintenant à un album que j'affectionne particulièrement, l'album « Si j'ai aimé » de la merveilleuse soprano Sandrine Pio, accompagné par le concert de la loge sous la direction de Julien Chauvin. C'est un album très rare, très original, très bien pensé, composé pour l'essentiel de mélodies françaises, de compositeurs connus comme Berlioz, Duparc, Massenet, mais également de compositeurs moins connus et l'on va découvrir des joyaux d'Alexandre Guilmant, de Gabriel Pierné ou de Théodore Dubois. Mais c'est une mélodie de Saint-Saëns intitulée « Extase » à laquelle j'aimerais que nous nous intéressions maintenant. C'est que la défense et la promotion de la musique française s'étaient concrétisées en 1871 avec la création de la Société Nationale de Musique que Camille Saint-Saëns présidera pendant 15 ans. C'est à cette période que la mélodie française prend véritablement son essor et pour l'auteur du Carnaval des animaux, sa défense est même une nécessité sociale. La mélodie ne se chante plus seulement dans les salons, mais dans les salles de concert où elle peut être accompagnée par un orchestre. Saint-Saëns adore la poésie, il est d'ailleurs lui-même poète, puisqu'il a signé en 1890 un recueil intitulé « Rimes familières ». Et quand il n'écrit pas lui-même les textes de ses mélodies, il fait bien sûr appel aux plus grands. Sa mélodie intitulée « L'extase » met ainsi en musique un poème de Victor Hugo. « J'ai dans l'âme une fleur que nul ne peut cueillir, mon âme a plus de feu que vous n'avez de cendre, mon cœur a plus d'amour que vous n'avez d'oubli ».
Puisque j'ai mis ma lèvre à ta coupe encore belle, puisque j'ai dans tes mains posé mon front pâli, puisque j'ai respiré parfois la douce haleine de ton âme, parfois dans l'ombre ensevelie. Puisqu'il me fut donné de t'entendre me dire les mots se répand le cœur mystérieux. Puisque j'ai pleuré, puisque j'ai vu sourire ta bouche sur ma bouche et tes yeux sur mes yeux. J'ai vu briller sur ma tête ravie un rayon de ton astre, hélas, voilé toujours. Puisque j'ai vu tomber dans l'ombre de ma vie une feuille de rose arrachée. Je puis maintenant dire aux rapides années, passez, passez toujours, je n'ai plus à vieillir, allez-vous-en avec vos fleurs, toutes fanées. Thank you.
Quelle beauté cette mélodie extase de Camille Saint-Saëns, surtout lorsqu'elle est interprétée par la voix aérienne de Sandrine Piau et accompagnée avec soin et délicatesse par les musiciens du Concert de la Loge sous la direction de Julien Chauvin. Connaissez-vous la sérénade pour violon alto et violoncelle d'Ernst von Dornani ? Non, sûrement pas. Dornani, ce n'est pas un nom très connu en France, je vous l'accorde. Et pourtant, c'est bien d'un des plus grands compositeurs de la première moitié du XXe siècle dont nous parlons. Alors Dornani est né en 1867 à Bratislava, donc aujourd'hui en Slovaquie, à l'époque en Autriche-Hongrie, et son père l'envoie étudier à Budapest où il devient le condisciple de Bartok. Grosse carrière de pianiste, un peu comparable à celle de Rachmaninoff, puis chef d'orchestre et enfin compositeur. Je citerai par exemple ses étonnantes variations sur le thème d'Avou dirai-je maman pour piano et orchestre, qui font bien de l'ombre à la série de variations pour piano sur le même thème de Mozart, et donc sa sérénade pour violon alto et violoncelle, écrite en 1902 et qui est considérée comme un chef-d'œuvre du répertoire de la musique de chambre. Une musique aux influences brahmsiennes, colorées, lyriques, pleines de saveurs, dont nous écoutons tout de suite la truculente marche du premier mouvement. Très belle interprétation par le trio Goldberg du premier mouvement de la sérénade pour cordes d'Ernst von Dornani, un extrait de leur récent album De l'ombre à la lumière, qui comprend également des œuvres magnifiques de Weinberg, de Jean Krah et de Gideon Klein. Alors s'il n'y avait qu'une date à retenir de toute l'histoire de la musique, eh bien je vous proposerais bien celle de 1685. Oui, parce que 1685, c'est l'année de la naissance de trois géants de la musique baroque, trois grands virtuoses du clavier qui plus est, j'ai nommé Jean-Sébastien Bach, Handel et Domenico Scarlatti. Mais ce dernier, napolitain d'origine, ne parvient pourtant pas à s'imposer dans sa ville natale, ni d'ailleurs dans le reste de l'Italie, malgré l'aide de son père Alessandro, musicien réputé et influent. Il va donc s'installer au Portugal en 1720 au service de la reine Marie Barbara et la suivre en 1729 lorsqu'elle devient par mariage reine d'Espagne. Il est alors à Madrid maître de musique de la reine et il s'y imprègne de la culture espagnole, étudiant par exemple le flamenco et composant son immense œuvre pour clavecin en ayant peut-être en tête les sonorités typiques de la guitare espagnole. Immense, c'est le mot, plus de 550 pièces, rendez-vous compte, il faut 34 disques pour en réaliser l'intégrale, soit plus que Bach et Couperin réunis pour le même instrument. Des pièces assez courtes, d'une redoutable efficacité expressive, d'une inventivité rythmique, instrumentale et contrapuntique toujours renouvelée. En voici une qui semble imiter au clavecin un duo imaginaire superposant les notes répétées de la mandoline au rasgueddo de la guitare, un enthousiasme haletant, une virtuosité frénétique. Thank you. Quelle virtuosité frénétique et haletante. Nous écoutions Justin Taylor interpréter la sonate 141 de Domenico Scarlatti, l'une de ses pièces les plus célèbres, parfois nommée toccata, aussi appréciée des clavecinistes que des pianistes. Et à propos de pianistes, connaissez-vous l'élégant franco-libanais Abdelrahman El Bacha? Saviez-vous qu'il était non seulement l'un des plus grands pianistes français, mais également qu'il composait? Une activité qui lui vient de son père Toufik, alors l'un des rares compositeurs de musique savante au Liban. Une affaire de famille? Sans doute, puisqu'Abdelrahman est lui-même le père d'un jeune Camille, pianiste aussi brillant improvisateur que bon compositeur, et que je connais d'autant mieux que j'ai eu le plaisir de l'avoir comme élève dans ma classe d'improvisation au piano du Conservatoire de Paris. Mais revenons à Abdelrahman, dont j'ai croisé la route lors de mes études à Paris au lycée Racine. Lui était en terminale, moi j'étais en seconde, et autant dire que c'était la star du lycée. On se pressait pour aller l'écouter dans la salle de musique, un enthousiasme que ne partageait cependant pas son prof de philo, regrettant qu'il préfère l'étude du piano à ses cours de philosophie. Bref, je vous propose maintenant d'écouter la dernière de ces trois pièces orientales pour piano, une pièce intitulée Bacchus, dont la mesure asymétrique à 7 temps dépeint habilement le déséquilibre produit par l'ivresse. Comme chacun sait, le dieu Bacchus ne buvait pas que de l'eau. Et cette rythmique irrégulière, tournoyante et joyeuse, s'accompagne d'ornementations évoquant irrésistiblement les musiques traditionnelles libanaises ayant marqué l'enfance de notre pianiste-compositeur.
Thank you.
ivresse de Bacchus, dernière des trois pièces orientales d'Abdelrahman El Bacha, dont l'album Arabesque réunit des compositions qu'il interprète lui-même au piano. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Découvrons maintenant la musique d'Alberto Ginastera, l'un des plus célèbres compositeurs argentins. Ce contemporain d'Heitor Villa-Lobos ou de Carlos Chavez est influencé par les œuvres de Bartók, Stravinsky ou encore Copland, et comme eux, il a su intégrer des éléments folkloriques dans ses compositions. Ainsi, son ballet Estancia, composé en 1943 et qui décrit la vie des gauchos, ces gardiens de troupeaux des plaines sud-américaines. Ginastera en a tiré une suite pour orchestre, dont le dernier numéro est un malambo, une danse individuelle typique de la pampa, essentiellement rythmique. Une page orchestrale flamboyante dont l'énergie s'accumule progressivement entre glissando de violon, ponctuation de tambour de basque et clarinette pavillons en l'air pour finir en une transe orchestrale ébouriffante. Grâce au compositeur argentin Ginastera, à sa puissance rythmique comme à ses vives couleurs orchestrales, vous savez désormais danser le malambo. C'était le final du ballet Estancia, interprété par l'orchestre de Lutetia sous la direction du chef argentin Alejandro Sandler. Retour en France pour vous parler maintenant d'un chef-d'œuvre de l'après-Seconde Guerre mondiale, le Requiem de Duruflé. Alors Maurice Duruflé a eu pour maître Paul Dukas et comme lui n'a laissé que très peu d'œuvres, 14 numéros d'opus, dont la moitié pour orgue, Duruflé ayant été l'organiste de Saint-Étienne-du-Mont à Paris pendant près de 55 ans. Son Requiem est aujourd'hui considéré comme l'une des plus belles œuvres sacrées du XXe siècle. Terminée en 1947, l'œuvre est tout entière inspirée par les thèmes grégoriens de la Messe des Morts, mais avec tout le confort moderne d'un grand orchestre. Mais cette opulence symphonique n'est pas mise au service d'un geste théâtral, comme dans les Requiem de Verdi ou de Berlioz, mais trace plutôt un chemin d'apaisement, de foi et d'espérance. En voici le Sanctus, avec son impressionnant enroulement de sextolet parcourant l'orchestre des altos jusqu'à la harpe et conduisant un crescendo progressif qui nous mène au sommet d'une arche majestueuse, les anges déploient leurs ailes. C'était le Sanctus du Requiem de Maurice Duruflé dans la récente version de Robin Ticciati à la tête de l'orchestre symphonique et du chœur de la radio de Berlin. Et maintenant, comment terminerons-nous cette première promenade auriculaire? Je vous propose un air de ténor parmi mes préférés. Un véritable dessert, suave, lyrique, onctueuse à souhait. Le fameux « Je t'ai donné mon cœur » chanté par le prince Souchong dans l'opérette « Le pays du sourire ». C'est probablement le plus célèbre des Tauberlieder. Vous savez, ces airs écrits sur mesure par Franz Lehár pour le ténor Richard Tauber. Un air qu'il chantera plus de 3000 fois sur scène. On commence lassé, il est vrai, de cette extraordinaire déclaration d'amour. Je vois partout tes cheveux merveilleux, ton regard plein de rêves et tes yeux lumineux. Et nul chant n'est pour moi aussi doux que ta voix.
Oh,
dit en loin de toi, ta présence reste en moi, ton souffle parfumé m'enivre, je n'ai qu'une raison de vivre, toi.
Fervent lyrisme du ténor Julien Bert dans le célèbre « Je t'ai donné mon cœur » tiré de l'opérette « Le pays du sourire » de Franz Lehár. Il était accompagné par Pierre Bleuze et l'orchestre de l'Opéra de Lyon, un extrait de son récent album « Confidence ». C'était la preuve par Z, une émission de Jean-François Zigel, réalisée par Anne Weinfeld et préparée avec Théo Friconon. Chef opérateur du son, Maxime Ingrand. À la semaine prochaine.